Bonjour tout le monde et bonne semaine québécoise des personnes handicapées, Luc.
Eh monsieur, moi je dors plus depuis vendredi là, je festoie d'un party à l'autre pour la SQPH.
Yeah! Et donc, ça va être le sujet de notre table ronde cette semaine. En lien avec cette table ronde, notre question de la semaine, c'est « Que pensez-vous de la semaine québécoise des personnes handicapées? Que peut-on faire pour qu'elle ait des retombées plus concrètes? » N'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler, nos réseaux sociaux, mot-clic Canal M. Notre chroniqueur juridique nous parlera des obligations contenues dans cette fameuse loi OPHQ. Nous allons aussi parler d'un chien qui fait des heureux dans une école de Lévis, de place à Montréal, vraiment hot et accessible. Tout de suite, on s'entretient avec un Cubain de passage chez nous. Il est en ce moment à Québec pour une conférence publique sur les soins de santé donnés à Cuba. Avec lui, nous parlerons particulièrement des soins ophtalmologiques. Tout ça sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Alors, nous voici en lien avec Osvaldo Ardisana, qui est médecin généraliste représentant des services cubains à l'étranger en matière de santé. Bonjour, monsieur Ardisana.
Bonjour, madame. Ça va?
Oui, ça va bien. Merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes au Québec pour environ 2 semaines. Vous faites des conférences un peu partout, des conférences publiques, pour parler de l'expertise cubaine en matière de santé. Je crois que cette année, vous êtes accompagné d'un médecin qui est spécialisé en orthopédie.
Exactement. Lui, c'est un médecin spécialiste en immunologie et hématologie. Ça veut dire qu'on utilise le traitement avec des cellules souches. Mais vraiment, c'est l'orthopédie de métier qu'on utilise plus fréquemment. Donc, on utilise les cellules souches pour les soins, soit d'orthopédie, d'hématologie, angiologie en général, mais...
Bon, c'est formidable, Cuba a des soins de santé connus partout dans le monde. Et avec vous, on voudrait parler de soins des yeux, des soins oculaires en ophtalmologie. Combien de patients étrangers viennent se faire soigner en ophtalmologie à Cuba et de combien de pays dans le monde?
Bon, en général, il y a beaucoup de patients qui viennent pour le soin d'ophtalmologie à Cuba. Dans le cas du Canada en particulier, bon, nous avons reçu plusieurs patients, je dirais des centaines de patients. Mais en général, ce sont des milliers. Plus de 5000 patients sont venus à Cuba et ils viennent de plus de 80 pays. Mais le bout du voyage, c'est différent. Surtout pour les Canadiens, c'est la rétinite pigmentaire.
D'accord.
Ce serait le traitement le plus populaire ou c'est uniquement, disons, surtout pour les Canadiens, la rétinite?
Ben, malheureusement, dans beaucoup de pays du monde, il y a d'autres maladies ophtalmologiques qui ne sont pas bien traitées, ils ne sont pas bien soignées. Mais ce sont des maladies communes, des maladies typiques, disons les cataractes, les glaucomes, qui ici au Canada, il y a un bon traitement pour ça et pas besoin d'aller à Cuba pour faire le traitement. Malheureusement, pour la rétinite pigmentaire, il n'y a pas de traitement. Le seul traitement disponible, c'est maintenant pour les temps à Cuba. Et c'est un traitement très spécifique que ça va aider à arrêter la progression de la maladie. Ce n'est pas très bon pour la guérison, mais ça peut aider quand même.
Ça ralentit, oui. Comment expliquer la popularité et l'efficacité des soins en ophtalmologie du côté de Cuba?
Bon, c'est une histoire un petit peu longue, mais je vais essayer de la faire assez rapidement. Dans les années 80, dernier siècle, il y a eu un boom, disons, de l'ophtalmologie à Cuba. Il y a beaucoup de médecins qui ont travaillé dans ces domaines. Il y a un professeur Filio Peláez, qui est déjà décédé, mais que dans ce moment-là, il a insisté en travaillant pour la rétinite pigmentaire, pour des questions personnelles, à un ami, un proche à lui qui est décédé, c'est ça, quitter la vie à cause de ça, et c'est un médecin aussi. Donc, il s'est consacré, dévoué pour le traitement de la rétinite pigmentaire, et on a achevé un traitement très utile, qui fonctionne, que c'est une combinaison de plusieurs procédés, on peut parler plus tard si vous voulez, et ça aide beaucoup les patients. On a travaillé dans ces champs pour plus de 40 ans à Cuba, et on a achevé de bons résultats.
Dans mes lectures, je constate qu'on utilise beaucoup l'oxygène.
Oui, c'est plutôt l'ozone. L'ozone,
ah, okay.
C'est une variante de l'oxygène qu'on a ajouté un atome en plus. Donc, c'est la transformation de l'oxygène en ozone, que c'est un produit, un médicament qu'on utilise dans plusieurs maladies parce que ça aide à éliminer les radicaux libres dans le sang, ça stimule le processus de l'apertude de la membrane de la membrane de globules rouges pour pénétrer l'oxygène. Et ça aide beaucoup en général pour la fluidité de du sang, la guérison de tissus qui sont déjà affectés ou qui méritent la cicatrisation.
Et quels sont les pourcentages de succès de ces traitements, des chirurgies que vous donnez à Cuba?
Bon, comme je vous ai dit avant, le processus, on peut arrêter la progression. Vous savez, la rétinite pigmentaire, c'est surtout une perte du champ visuel. La personne commence à réduire la vision dans les côtés. Donc, si on applique le traitement au début de la maladie, on peut arrêter la progression probablement dans une 75-76% de la population. On dit qu'il y a même un 10-15% qui peut améliorer un petit peu le champ visuel. Donc, on peut parler à environ d'un 90% de réussite. Quand on parle de réussite, on dit ou soit arrêter ou améliorer un petit peu la maladie. Malheureusement, il y a environ 10% qu'il n'y a pas d'amélioration, donc la maladie, ça continue la progression naturelle.
Bon, la vraie question, M. Ardizana, et c'est pourquoi Santé Canada refuse de, disons, suggérer aux gens d'aller à Cuba, c'est qu'il n'y a pas d'article scientifique qui valide les résultats que vous venez d'expliquer. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'articles qui font l'objet de cette réussite-là dans les revues spécialisées?
Bon, c'est pas exactement comme ça. Oui, il y a des articles dans les revues, dans les publications scientifiques cubaines, quelques publications de l'Amérique latine. Il y a eu même plusieurs symposiums, plusieurs congrès médicaux, soit à Cuba, soit aussi au Brésil, en Espagne. Et les médecins cubains ont présenté les résultats. Malheureusement, c'est bien difficile pour un professionnel, un médecin d'un pays considéré non développé comme le Cuba, de faire des publications dans les magazines, les principales revues internationales scientifiques. Mais il y a des publications. Et les méthodes cubaines, c'est pas une chose bizarre ou, disons, pas de contexte scientifique. Non, non. C'est un processus complet qui ça comprend l'électrorétinogramme, toute la batterie d'examen, un procédé chirurgical.
Mais moi
il y a des résultats qui sont publiés.
Moi qui ne connais pas ça, je me dis, il me semble que si c'était vraiment fonctionnel, il y a des multinationales pharmaceutiques qui voudraient prendre le médicament et le répandre à travers le monde.
Oh, numéro un, c'est pas un médicament, c'est une technique chirurgicale. Il n'y a pas de médicament à vendre. C'est une bonne question parce que normalement, on utilise beaucoup de médicaments, mais c'est pas l'idée. Une autre chose, je pense qu'il y a aussi un petit peu de préjugés.
Okay.
Par exemple, l'année dernière, il y a plusieurs fois que nous avons des spécialistes en ophtalmologie cubaine qui sont venus ici au Québec, au Canada, pour donner des conférences, des rencontres. Et malheureusement, même s'ils ont invité, ils ont convoqué la communauté scientifique et médicale canadienne, personne n'est venu.
Ah. En terminant, c'est combien? Parce que ça coûte quand même assez cher, là.
Oui, on entend toutes sortes de prix, d'ailleurs.
Oui, vraiment, on pense que, oui, ça peut être considéré un petit peu cher. L'ensemble des traitements, ça coûte 8 000 CUC, la monnaie cubaine, c'est l'équivalent de, disons, de 10 000 Canadiens.
Okay.
Ça comprend dans ce jour à Cuba de 3 semaines. La chirurgie, logement, nutrition, bon, le tout ensemble, pour deux personnes, patient et l'accompagnateur.
Et ensuite, doit-on y aller à chaque année?
Oui, comment?
Doit-on y aller ensuite à chaque année pour un suivi?
Oui, le médecin recommande de faire le suivi à aller à Cuba, mais il n'y a plus de chirurgie, c'est seulement pour faire l'évaluation et on peut continuer le traitement d'ozone. Le voyage, chaque année, c'est plus court, c'est seulement une semaine. Une semaine, deux semaines, et le traitement, c'est seulement l'application de l'ozone, tout ça. Il n'y a pas besoin d'une deuxième ou une troisième chirurgie.
Et M. Ardizana, je me demandais aussi, est-ce que les Cubains ont accès à cette chirurgie, à ces traitements?
Ben oui, bien sûr. Par contre, je dirais que le programme pour les Cubains, c'est plus complet que pour les étrangers, pour une raison, disons, logique. Mm-hmm. C'est une maladie qui a un component génétique très important.
Ouais.
On fait la vérification, pas seulement chez les patients, mais aussi dans les membres plus proches de la famille. À Cuba, on fait la vérification dans les enfants, les frères, les sœurs, et ça permet d'avoir une idée plus complète de la maladie. Et c'est un programme que si c'est Cuba, ça fait plus de 30 ans, presque 40 ans déjà, et ça fonctionne comme une espèce de plusieurs étapes à la communauté, à la médecine, les médecins de famille, on fait le suivi après avec l'ophtalmologue, donc on continue pour toute la vie un suivi complet.
D'accord. Ben écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Bon séjour. Et puis, si des Québécois veulent en savoir plus, il y a toujours ces agences de services santé internationales québécoises qui font les ponts entre vous et les patients.
Merci.
Merci, Monsieur Ardisana.
OK, bonne journée à vous.
Désormais, jamais plus, non, rien, ni vent, ni personne ne pourra m'empêcher de souffrir en paix, d'aller lécher les vitrines du columbarium. J'ai dégusté les glantines ornant le columbarium. Désormais, jamais plus, non, rien, ni vent, ni personne ne pourra m'empêcher de manger par la racine les glantines décorant le columbarium. C'est un endroit presque magique ravive notre instinct tragique. Tout le monde est d'accord pour dire que la mort est chic. Au columbarium, j'ai assemblé toutes les planches placées au columbarium. Désormais, jamais plus, non, rien, ni vent, ni personne ne pourra m'empêcher de dormir en paix, de sommeiller dans la boîte du columbarium. J'ai exhibé mes péchés sur l'autel du columbarium. Désormais, jamais plus, non, rien, ni vent, ni personne ne pourra m'empêcher de croquer la pomme, d'aller pêcher sur l'autel du columbarium. C'est un endroit presque troublant, brillant d'or, de noir et d'argent. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est épatant. Tout le monde est passé pour passer. Tout le monde a brûlé une parole. Tout le monde a pleuré pour pleurer. Au columbarium, au columbarium, au columbarium.
Pointe! C'est ton premier album, Laurent Trépanier-Capistran, bonjour!
Bonjour, très content d'être avec vous.
Laurent qui est avocat et juriste pour... juriste à domicile?
Exactement.
Donc si j'ai des problèmes de loi, je vous appelle, venez chez moi.
C'est ça, ça va nous faire plaisir.
on parle de la fameuse loi au PHQ qui finalement parle d'obligation de contenu. On veut finalement l'exercice des droits des personnes handicapées dans l'inclusion autant scolaire que professionnelle. Peut-être nous ramener dans le contexte du début de cette loi. Je présume que c'était d'abord des pressions associatives.
Tout à fait. Donc ça, c'est une loi qui a été créée en fait en 1978. Et puis effectivement, un des éléments qui pousse l'adoption d'une telle loi, c'est entre autres la mobilisation du milieu des personnes en situation de handicap au Québec. Et donc, et qui va finalement venir également créer ce que l'Office des personnes handicapées du Québec, là, ce qu'on appelle par son acronyme l'OPHQ, et qui est créé d'une part par cette loi-là et qui va tenter de veiller à son application également par la suite.
Qu'est-ce que ça a permis comme gain, cette loi, pour les personnes handicapées?
Bien, je dirais deux choses en particulier. Peut-être que je pourrais en ajouter d'entrée de jeu une troisième, c'est-à-dire un peu plus, si j'emploie le bon terme français, d'exposure. Tu sais, c'était une des premières fois où on venait en parler juridiquement, donc, mais qui est peut-être un aspect moins juridique. Mais au niveau du contenu de la loi, je dirais qu'au plan des institutions, ça va venir créer une obligation pour les institutions d'adopter des plans d'action. Notamment pour les ministères, les organismes publics et les municipalités de plus de 15 000 habitants, ça va venir leur créer une obligation d'adopter un plan. Et ce plan-là, ce plan d'action-là, ce qu'il prévoit en fait, c'est d'abord un document qui doit être produit annuellement et qui doit identifier les obstacles à l'inclusion des personnes en situation de handicap, les mesures pour améliorer la situation dans les années qui viendront et les mesures à long terme ensuite. Et donc, je tiens à le rappeler aussi, puisque j'ai eu la chance de participer à l'élaboration de certains d'entre eux, que ce plan-là, il ne doit pas uniquement viser les lieux physiques, là, il doit aussi viser, on donne des services ou des biens, ça doit être inclus dans ce plan-là. Donc souvent, il y a comme une espèce de conception dans le sens commun qui nous dit « Ah, c'est juste pour les lieux physiques », mais non, ça touche aussi les services. Donc, de là aussi peut-être le gain plus substantiel là, que juste au niveau de l'accessibilité des lieux.
Qu'est-ce qui arrive pour les villages ou les petites villes de moins de 15 000 habitants? Depuis le temps là, qu'on parle des 15 000 et plus, on ne s'est pas encore adapté aux 15 000 et moins?
Non, mais en fait, au niveau de la loi de l'OPHQ, effectivement, il n'y a aucune obligation. Ensuite, c'est-à-dire qu'une municipalité pourrait, de son plein gré, décider d'adopter un plan, mais elle n'est pas forcée de le faire par la loi OPHQ, en fait.
Est-ce qu'il y a des consultations publiques pour reconnaître les obstacles ou les limitations des personnes de la ville en question?
Si les villes ont l'obligation de faire des consultations?
Si les villes consultent leurs citoyens?
Ben, et en fait, ça, c'est pas. Je ne pense pas que ça apparaît dans les obligations. Donc, ils doivent produire un document, mais ensuite, sur le comment, il y a peu d'indications, si je ne m'abuse, dans la loi OPHQ.
Ben, il y a peu de sanctions également. Là, on dit qu'ils doivent produire, mais s'ils ne le produisent pas, c'est pas plus grave que ça, vous ferez mieux l'année prochaine.
Effectivement. Donc, il y a l'obligation. Donc, légalement, ils doivent le faire. Mm-hmm. Donc, ça, je veux être clair là-dessus. Mais si ce n'est pas fait, il y a très peu de conséquences qui sont prévues directement dans la loi. Ensuite, il pourrait peut-être y avoir des conséquences politiques, c'est à voir. Mais au niveau juridique, effectivement, il y a très, très peu de conséquences. Si je reprends certaines mesures là, qui peuvent être sanctionnées, par exemple, par des amendes, ben on retrouve dans la loi une certaine obligation de confidentialité qui appartient à l'OPHQ, une obligation pour les organismes de collaborer avec l'Office de l'OPHQ, en fait. Et certaines amendes qui peuvent être octroyées si on n'autorise pas une personne à entrer sur des lieux pour faire des vérifications qui proviendraient de l'OPHQ, notamment par rapport à l'octroi de subventions. Mm-hmm. Donc, on voit qu'il y a très, très peu de mesures qui vont nous forcer ou nous faire peur, là, entre guillemets, pour forcer à appliquer là, ces plans d'action-là ou à les mettre en œuvre ou tout simplement les faire.
OK. Est-ce qu'on note les bons élèves? Est-ce qu'il y a des évaluations, un organisme indépendant qui a un regard?
Il n'y a rien de prévu à cet effet-là dans la loi. Encore une fois, ce n'est pas parce que je tiens à le préciser que ce n'est pas prévu dans la structure juridique que c'est pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais ce qui est intéressant peut-être de noter, c'est que si ce n'est pas prévu dans la loi, puis par exemple, il y a une coupure de budget, puis c'est une portion qui doit être sacrifiée, bien, on n'est pas forcé de la conserver. Donc, c'est peut-être la nuance là, qu'on peut apporter ici. Et peut-être ajouter également qu'au niveau des individus aussi, il peut y avoir des choses intéressantes. Par contre, dans cette loi-là, il y a pas. On parle beaucoup aussi de la force coercitive, mais l'OPHQ a l'obligation, en fait, de créer des plans de service. Donc, on a parlé de plans d'action pour les institutions, pour les individus, plans de service. Et c'est un droit pour toute personne handicapée au sens de la loi de demander la préparation de ce plan de service-là qui peut inclure notamment un programme de réadaptation fonctionnelle, médicale, sociale, un programme d'intégration scolaire ou professionnelle selon le cheminement de l'individu et de l'aide aussi pour obtenir les différents services offerts. Ça, c'est une obligation qui incombe à l'OPHQ. Donc, au niveau des individus, ça peut aussi être intéressant et peut-être ajouter qu'on peut comment procéder là, à cette demande de plan de service-là? Bien, c'est tout simplement sur dépôt d'une demande. Et là, l'Office, si à la maison, vous faites une demande, l'Office a l'obligation de vous remettre une décision finalement sur votre admissibilité ou non. Et si vous êtes admissible, bien, tout simplement, là, le plan de service, vous allez être pris en charge.
Sait-on si l'évaluation est assez rapide? Parce que si tu veux avoir un plan puis t'intégrer dans ton école pas loin de chez toi, eux, ils n'attendent pas après toi. Hein? Le bulletin, c'est telle date.
Effectivement, là, pour ce qui est des délais internes de l'Office, je vous avoue ne pas être au courant.
Mais dans la loi, il n'y a pas de prescription. Vous devez remettre un plan de service à l'intérieur des temps de jour.
On parle d'un délai de 60 jours, si je ne m'abuse. Et puis là, si jamais ce n'est pas remis, il peut y avoir des discussions avec l'Office. Mais effectivement, il existe un délai là, qui est prévu dans la loi, qui est relativement rapide. Ensuite, à voir s'il est respecté dans la réalité, ça. Moi, comme je vous dis, je vous parle de la structure juridique aujourd'hui. Mm-hmm.
Laurent, c'est un sujet plate, mais qui doit être abordé, et j'aimerais ça qu'on le refasse, qu'on le poursuive. C'est quand même 40 ans. Oui. J'aimerais ça qu'on ait le temps et qu'on prenne le temps de voir, tu sais, plus spécifiquement les bons coups, les moins bons coups, là où ça tarde, là où, bon, peut-être l'accessibilité en bâtiment, les leviers dans cette loi-là. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'y revenir. Laurent Trépanier, Capistrant, donc, je le rappelle, est avocat et juriste pour Juriste à domicile. Nous, on va parler tourisme.
Oui.
Avec Madame Savard.
Oui. Merci, Laurent.
Question de la semaine, que pensez-vous de la semaine québécoise des personnes handicapées? Que peut-on faire pour qu'elle ait des retombées plus concrètes?
Bonjour Rob Savard.
Bonjour.
Alors avec vous aujourd'hui, on parle de destinations touristiques accessibles au Québec, mais principalement l'île de Montréal.
Exactement.
Rob Savard, tu me connais pas, mais pour m'envoyer magasiner là... C'est la preuve que tu me connais pas. Je regardais tes suggestions. Vente de trottoir sur Sainte-Catherine.
Oui.
T'es sérieuse?
Ben oui.
Pourquoi?
Ben parce que c'est quand même génial d'avoir cette rue-là qui est fermée à la circulation. Donc déjà, on peut s'y balader tranquillement.
Ça, c'est entre Papineau et quoi, Saint-Berry?
Non, c'est plus dans l'ouest.
Ah, OK, parce que là aussi, c'est piétonnier du côté de l'est, ouais. Mais OK.
Dans le village, mais là, c'est vraiment plus dans l'ouest. Puis, ce qui est le fun, en fait, c'est que l'animation, c'est assurée par un club de salsa puis une école de danse latine. Donc, c'est l'occasion d'avoir des petits spectacles de danse, de la musique, des DJ. C'est vraiment l'occasion de prendre un bain de foule. T'es pas obligé d'acheter, mais juste promener.
J'ai pas vu les dates.
Dans un lieu où d'habitude, il y a tout le temps des autos. Là.
Ouais, j'ai pas vu les dates, Aube.
C'est du vendredi 13 juillet au dimanche 15 juillet.
Oh, wow! Alors, dépendamment quel pays sera en finale et en demi-finale de la Coupe du monde de soccer, avec la salsa et avec la fermeture des rues, s'il fait le moindrement beau, on peut penser que le party va prendre.
Oui,
oui, oui, ouais, ça se pourrait très bien. Restons donc à Montréal. Je parlais, moi, du Sainte-Catherine, du côté du pont Jacques-Cartier, rue Papineau. Tu nous invites à aller de ce côté-là aussi, au village, au pied du courant cette fois.
Oui, au pied du courant, tout à fait. Puis ça, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est une belle initiative parce que c'est une initiative qui vise à donner l'opportunité aux citoyens de participer à la planification et à l'organisation du village. Donc, à chaque année, ça change, parce qu'à chaque année, il y a des citoyens qui présentent des projets spécifiques. C'est vraiment un lieu en constante évolution. Et ça, moi, je trouve que c'est comme une initiative, c'est vraiment génial. Puis en même temps, bien, on transforme un endroit qui est comme visiblement à l'abandon tout le restant de l'année.
Puis qu'est-ce qu'on
en
fait?
Un endroit où on peut se balader avec du sable, un parc, des transats, des hamacs.
Et si je suis à roue, pique-niquer. Si je suis en fauteuil roulant, le sable, est-ce que ça me gêne ou il y a des petites promenades de bois ou...
Oui, c'est ça, il y a des passerelles de bois, donc ça ne cause pas de problème là-dessus.
Et tu parlais de projet citoyen, donne-moi un exemple.
Oh mon Dieu, parfois il y a des gens qui veulent aller présenter des nouveaux produits qu'ils ont inventés. Donc, c'est une occasion pour eux de tester ou une nouvelle idée pour un organisme. Ils vont venir en parler, obtenir les commentaires des gens.
L'année dernière, j'ai goûté des crackers au grillon, à la farine de grillon.
Ah, ben moi, je vais à l'insectarium pour ça, mais c'est vrai que si on peut manger dehors à la plage, pourquoi pas?
Un petit snack.
Oui.
Ben oui, c'est ça. Il y a des food trucks, des aires de jeu, des terrains de sport.
Bon, là, vous proposez à un gars aveugle un festival de murales.
Ouais, bon, d'accord.
Ça part très bien votre première semaine avec moi, vous.
Mais non, mais j'ai des concerts de musique aussi, par exemple.
Ah.
Oui, les concerts comme belles.
Je fais exprès.
Voilà. Ouais. Mais le festival Mural, ben, c'est un festival d'art urbain. Puis ça, c'est sur Saint-Laurent. Encore l'occasion de fermer la rue Saint-Laurent et que ce soit en même temps transformé en vente de trottoir, un peu comme sur la rue Sainte-Catherine, à l'exception qu'au lieu que ce soit la danse qui soit à l'honneur, ben c'est les arts visuels qui le sont.
Ça, c'est entre Sherbrooke et Mont-Royal.
Oui, c'est ça, exactement.
Et ça a lieu quand?
Du 7 au 17 juin, donc c'est bientôt.
Oh, ben oui, oui. C'est cette fin de semaine. Du moins, ça commence cette fin de semaine.
Oui, c'est ça.
Avec le Grand Prix en plus, avec... Et on parlait de Peter Tchaïkovski avec les concerts Campbell. Ce qui est le fun des concerts Campbell, à moins que ça a changé, c'est que normalement, on se promène dans plus d'un parc selon la date. Là, Tchaïkovski va peut-être se rendre près de chez nous. Là.
Oui, Tchaïkovski d'ailleurs, je ne me rappelle plus quelle date, mais ils vont aller jouer à l'Île des Sœurs aussi.
Le 27 juillet, Diana?
27 juillet, devant le...
Le 27 juillet, c'est sur le chalet du Mont-Royal, devant le chalet du Mont-Royal.
Oui.
Sur la montagne. Donc ça, c'est vraiment le fun. C'est quand même un beau lieu. Puis là, ben, pour la musique classique, moi, je trouve que ça se prête tellement bien là, d'aller dans les parcs. Je trouve aussi que quand on est à mobilité réduite, c'est beaucoup plus facile de circuler que, par exemple, dans le festival de jazz ou des francopholies où on est dans des rues qui... où on n'a pas tellement d'espace à un certain moment donné.
Et quel orchestre offre les concerts Campbell?
Là, c'est l'Orchestre métropolitain.
OK, avec...
Avec Yannick Nézet.
Si c'est Yannick, là, parce qu'il est peut-être occupé, oui, c'est ça. C'est possible, mais en tout cas, on sait qu'ils savent jouer, ça, c'est clair.
Oui.
Ouais. Observer, merci beaucoup.
Ça a fait grand plaisir.
Puis nous, on va se demander la semaine québécoise des personnes handicapées. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? J'ai même pas le temps de vous demander votre opinion à Aube, mais écrivez-nous, mot clic, Canal M, on veut votre opinion, Aube. Nous, on en parle avec trois personnes après la pause.
Ça marche, merci beaucoup.
Vous écoutez Accès Libre.
Les deux bras d'un ou la face d'un poussière sous un soleil d'hiver. La tête dans les dents de la mer, mais je vous jure qu'on est bien. On manque juste un peu de temps. Arrêter de s'en faire avec le temps qui va faire en enfer. Ces deux-là sont plus ou moins copains, on s'empêche pas de les voir marcher main dans la main. Ces deux-là sont plus ou moins copains, on s'empêche pas de les voir mettre de l'eau dans leur vin. Sont plus ou moins copains, ils s'empêchent pas de les entendre se dire à demain. Là, sont plus ou moins copains, ils s'empêchent pas de les voir marcher main dans la main. Fixé sur ses ailes, étrange, c'est la plus belle, le genre qui a tout pour elle. Le feu et puis l'étincelle, oh je vous jure qu'on est bien. On manque juste un peu de temps, sans pouvoir arrêter de s'en faire avec. La sorte de miel qui coule au ciel. C'est de l'os sans plus ou moins quand même, s'empêche pas de les voir marcher main dans la main. C'est de l'os sans plus ou moins quand même, s'empêche pas de les voir mettre de l'eau dans la main.
Jardin, apparemment qui est banjiste,
oui.
Ténor, c'est ce que Jean-Sébastien nous disait. Il joue du banjo ténor.
Et nous sommes rendus à la
table. Ça t'impressionne pas toi,
non? Pas du tout. Donc la semaine québécoise des personnes handicapées, quelle pertinence. Est-ce qu'on a la meilleure formule finalement pour
en plein Ramadan,
défendre
hein,
les intérêts effectivement.
Ouais, du 1er au 7 juin.
Exact.
Chaque année. Non, mais c'est vrai.
Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on a la meilleure formule pour défendre les intérêts collectifs des personnes vivant avec un handicap?
On pourrait penser qu'après 22 ans, on commence à y arriver, mais...
Oui, mais bon...
De plus en plus, on entend des gens qui disent non.
C'est ça. Et on a voulu en parler avec Monique Baudouin, qui est directrice du regroupement des associations des personnes handicapées de l'Outaouais. Bonjour, Madame Baudouin.
Bonjour.
Nous sommes également au téléphone avec Michel Bédard, qui est producteur-animateur de l'émission Les Capés sur CKIA à Québec. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et avec nous en studio, Dominique Tremblay, formateur pour Formation Altergo. Bonjour.
Bonjour.
Dominique, content que tu sois là.
Ça me fait plaisir,
Je m'attache de plus en plus à Dominique. Michel, j'ai passé une bonne partie de la nuit avec toi. Moi, contrairement à toi, j'ai probablement pas pris de coup de soleil parce que j'écoutais l'édition décapée de samedi après-midi où tu as passé 3 heures dehors à nous parler de handicap et de Québec.
Heureusement, j'étais à l'ombre.
Et Monique, j'ai rien pour toi, sinon que c'est bon de t'entendre.
Ben, c'est correct, ça fait longtemps, c'est pas la première entrevue qu'on a avec toi ici.
Tout à fait.
Alors,
on a eu tout d'autres sujets.
La semaine québécoise des personnes handicapées, cette année sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive », a pour objectif de sensibiliser la population à la participation sociale des personnes handicapées. Plus précisément, elle vise à inciter les citoyennes et citoyens, quel que soit le rôle qu'ils exercent dans la société, à poser un geste pour réduire un obstacle que rencontrent les personnes en situation de handicap. Alors, pensez-vous que la semaine québécoise remplit ces objectifs qu'on lui avait prêtés lors de sa création? Monique?
Écoutez, moi, je vais revenir un petit peu à l'historique de ça. Bon, je suis au courant, j'ai même lu hier un petit peu voir ce que l'Office des personnes handicapées avait comme thème cette semaine, le fameux questionnaire. Alors, je vais te voir aussi sur leur site web. Et nous aussi, au regroupement, on a déjà travaillé sur la semaine des personnes handicapées, entre autres, de 2009 à 2012, où on avait rassemblé plusieurs organismes. Nous avions eu aussi du financement dans le temps de l'Office des personnes handicapées du Québec, qui est beaucoup plus compliqué maintenant. Mmh. Et ça avait été quand même les premières années bien, mais rendu en 2012, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'intérêt, il y avait moins d'intérêt à cause de semaines provinciales, à cause aussi de gestion administrative qui en demandait beaucoup. Envoyer telle facture, bon, il fallait que ce soit l'original et même pour la rédaction des rapports, on n'avait pas non plus de ressources supplémentaires pour l'organiser. On a eu deux années de deux stagiaires, mais c'est tout prêté par d'autres organismes qui se sont nous ont aidés là-dedans. Chacun a mis quand même du sien, mais on n'a pas non plus de ressources. Et moi, je me suis fait même au niveau du regroupement. J'ai même fini mon rapport même pendant l'été dans le temps des vacances parce que bon, on n'avait pas le temps de le terminer, puis il fallait aussi répondre au niveau des objectifs de l'OPHQ par rapport à leur politique à part entière. Qu'est-ce que la semaine avait donné?
Est-ce que je comprends, Monique, que l'organisme doit ou devait avancer l'argent et ensuite on remboursait les factures? Ça implique donc que l'organisme doit avoir l'argent au départ?
Ben non, on avait la subvention, sauf que quand on faisait la reddition de compte, il fallait vraiment que rentrer dans notre argent. Il y a même une année où des organismes, il fallait remettre un argent. Un petit montant, c'est sûr qu'on reçut une lettre avec, parce que ça correspondait pas à leurs critères. Et juste aussi insignifiant que ça, c'est une boîte de papier braille que j'avais acheté parce que j'avais fait plusieurs communiqués cette semaine-là où j'en avais eu besoin. L'OPHQ n'a jamais voulu l'accepter. Ils n'ont jamais voulu non plus accepter l'interprétation pour les personnes ayant une déficience auditive en LSQ, alors que je me dis, on était chanceux, la ville l'avait failli cette année-là, mais à mon avis, il me semble que ça relève de l'Office des personnes handicapées, ces dépenses-là. Ouais.
Oui.
Michel, est-ce que tu penses que l'Office, ou en tout cas, ben, en fait, on dit l'Office. L'Office est là pour aider les écoles, les municipalités. Tout ne repose pas sur les épaules de l'Office là, dans cette aventure-là. C'est supposé être un catalyseur, mais est-ce qu'on rencontre les objectifs fixés?
Ben, je vais aller un petit peu dans le même sens que l'autre personne avec qui vous parliez effectivement. Personnellement, je trouve pas que ça a sa place encore dans sa forme actuelle. Il y a quelques années, il y avait un porte-parole, il y avait, à mon sens, une meilleure structure. Par contre, là, ils font ils sont beaucoup sur les médias sociaux, sur Facebook par exemple, avec des vidéos et tout. Personnellement, je trouve que la visibilité est de beaucoup réduite comparativement à il y a quelques années. Donc, est-ce que la forme actuelle est encore bonne? Je ne croirais pas. Il faudrait peut-être, à mon sens, revenir à la formule qu'il y avait il y a quelques années.
Dominique, je me trompe ou toi, même il y a quelques années, pas sûr que tu étais vraiment au courant?
Bien, on a toujours su qu'il y avait quelque chose, mais quand on ne baigne pas dans des organismes pour personnes avec des limitations fonctionnelles, je ne suis pas sûr qu'on sait vraiment que la semaine existe et c'est quoi l'objectif de la semaine. Puis est-ce qu'on va plus loin que le stationnement, la rampe ou l'ascenseur? Puis pourtant, quand on parle d'activité des personnes qui ont une limitation universelle, c'est pas juste de rentrer dans un édifice, mais c'est aussi de participer à la vie de la société, avoir accès à des programmes et services, qu'on puisse communiquer avec ces personnes de façon importante. Donc, je pense que c'est plus gros que juste ce qu'on fait présentement.
Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous proposeriez pour, disons, améliorer ou la rendre peut-être plus efficace? J'entends d'abord Monique dire peut-être un petit peu moins de bureaucratie au niveau de la reddition de comptes.
Moi, j'aurais peut-être d'autres choses à rajouter. La date, si on veut rejoindre le milieu scolaire, le mois de juin, c'est jamais une bonne date. On l'a vu par expérience. C'est la fin de l'année scolaire, les examens, les écoles secondaires, c'est pas vraiment la bonne date du 1er au 7 juin.
Sauf que, je permets de t'interrompre, Monique, parce que Michel, t'as parlé à la DG de l'Office, Anne Hébert, qui, elle, t'expliquait pourquoi c'était en juin.
Oui, mais je vais être très honnête avec vous. Je me rappelle pas de ta réponse.
OK, ben, c'est ça. Moi, je l'ai écouté cette nuit, alors je m'en souviens. C'est... Elle disait que ce sont... Je voulais juste te laisser le scoop. Mais elle disait ce sont des organismes et des individus qui nous ont demandé de la tasser parce qu'avant, c'était du 1er au 7 décembre pour inclure la journée internationale du 3 décembre, qui est la journée internationale.
Je ne sais pas quel organisme qui a été contacté. Pourtant, j'étais dans ces milieux-là dans les années 95-96. En tout cas, ils sont sûrement pas venus.
Je pense que t'étais malade cette journée-là, peut-être.
Mais pourquoi la tasser?
C'est ce que j'entends ici dans ma région, puis un peu partout, que c'est pas vraiment toujours la date idéale là, de cette semaine-là.
Oui, puis ça, je trouve ça assez logique, parce que c'est vrai que les organismes sont aussi tous en assemblée, ouais. C'est ça, ils produisent leurs documents, etc. Donc,
Et si je peux me permettre, 1er ou 7 décembre, c'est en plein hiver. Comment voulez-vous faire des activités avec des gens qui participent alors qu'on n'est pas sûr de pouvoir sortir, ne serait-ce qu'une tempête, ne serait-ce que le transport adapté qui ne fonctionne pas, plein de bonnes ou de mauvaises raisons. Tandis qu'au 1er ou 7 juin, c'est peut-être pas la date idéale, j'en conviens, mais il y a pire comme date. 1er ou 7 décembre, par exemple.
Donc, en tout cas, on peut quand même peut-être, on pourrait s'asseoir et regarder question calendrier. Parce que j'aime l'idée, là, effectivement, les écoles sont dans les examens, sont dans les révisions de fin d'année. J'entends ce que Monique dit. Est-ce qu'il y a d'autres propositions qu'on pourrait faire, peut-être, pour donner plus de visibilité à
Pour revenir à la date, Luc, quand on s'est parlé par téléphone, quand tu as voulu m'inviter pour la chose, je me suis mélangé avec la semaine canadienne de l'accessibilité universelle, qui était la semaine dernière.
Mmh. C'est vrai.
Donc,
on est une société distincte.
Oui, je sais, mais
on fait rien comme les autres.
Est-ce que ça amène une certaine confusion? Donc, je trouve ça...
Dans ta tête, oui, en tout cas.
Dans ma tête, oui, mais est-ce que je suis l'exception qui confirme la règle ou si c'est généralisé?
Surtout que ça s'appelle la Semaine nationale de l'accessibilité et ça a lieu du 27 mai au 2 juin. Et il y a des activités qui sont aussi organisées à Montréal, notamment un rassemblement qui avait lieu le 1er. Oui, effectivement, ça porte à confusion.
Okay.
Je vais vous dire une chose là-dessus. La semaine des Québécois, ça relève aussi de la semaine nationale. Ça a commencé au fédéral, ça, des années 1980, cette semaine-là. 1988, je me souviens bien. D'ailleurs, à laquelle j'avais fait une conférence de presse. Et à un moment donné, le fédéral ne le faisait plus. Et c'est là que l'OPHQ au Québec a décidé de prendre le relais d'une semaine québécoise.
D'accord. Et après, ils se sont mis à en refaire une. Et du coup,
oui,
ça s'est scindé en deux.
En refaire une. Oui, ça peut porter à confusion. Et moi, je me suis demandé, écoute, non, on n'a pas le temps de participer aux deux. Puis c'est sûr que j'ai des organismes qui en font quelques activités de la SQPH sont plus nombreux maintenant.
Ouais.
Ben, je vais mettre le message dans mon réseau. Comme demain, le webinaire avec Altergo. Bon, je vais même m'inscrire, là. Mais je veux dire, je vais l'envoyer dans mon réseau en espérant que des gens vont lui donner suite qui vont s'inscrire.
Mais t'es chanceuse, toi. T'as quelque chose du 26 mai au 7 juin. Tu traverses à Ottawa du 26 mai. T'sais, écoute, t'es très, très bien placé.
Oui, il y avait une conférence qui s'est passée à Ottawa avec l'Ottawa francophone. Malheureusement, comme le transport entre Ottawa et Gatineau est trop pauvre, ne fonctionne pas, je n'ai même pas pu y participer. C'était justement sur l'accessibilité.
Monique Baudouin, Michel Bédard, Dominique Tremblay, restez là, un petit peu de musique, puis on vient.
Question de la semaine. Que pensez-vous de la Semaine québécoise des personnes handicapées? Que peut-on faire pour qu'elle ait des retombées plus concrètes?
Holding my breath when the tightrope walker slipped into the moon glow, saying all my children follow me, maybe it's time to go. You can be chrome when you're wise, you can be wise when you're blue, maybe if I had, then I had for you. Bribing the jury to keep me in jail, singing tea for the tiller man, and although I lie fantastically, I swore an oath in my history, it's a miracle I can see. You can be wrong when you're right, even when you're right on cue. And if I die tonight, then I die for you. Calling the nose, they call me son, great grandson or grandson, great uncles, aunts, and relatives to judge what I have done. Gonna make it right by you, even if it's all I do. And if it's all I do, then I do for you.
hypnotically. Hurts no one but me. Even the darkness has arms, but they ain't got you. Baby, I have it, and I have you too. And a light in the window to pass the night through. Maybe so uncertain, what can I do? Keeping it on, keeping it on. And I know I like it, but what does that prove? Someone's a worry, I don't know how to love.
Brothers sur Canal M.
Pour revenir aux objectifs de la semaine québécoise des personnes handicapées dont on parle actuellement avec Monique,
Baudouin.
Monique Baudouin, merci Luc.
Directrice
du RAFO. Dominique Tremblay, qui est formateur.
Je suis pas allé à l'école avec.
Non.
Pour formation Altergo, et Michel Bédard, qui est animateur à l'émission Les Capés. Donc, revenir à ces objectifs, en fait, moi, ce que je comprends aussi, c'est que c'est une semaine qui vise à sensibiliser le grand public à faire tomber un obstacle, donc un obstacle qui est limitant pour une personne en situation de handicap. Et sur le site de l'OPHQ, donc sur la page de la semaine, il y a des idées pour agir et notamment des gestes à votre portée. Selon qui vous êtes, donc un propriétaire de commerce, si vous travaillez en service de garde, propriétaire d'un édifice public, si vous travaillez dans une école, vous administrez un site web, l'OPHQ propose différents gestes qu'on peut poser, assez simples. Voilà pour ce qui est de l'information et des idées à avoir dans le cadre de cette semaine et peut-être déborder un peu de la semaine.
J'ai chicané pendant une couple d'années, moi, en pensant à cette semaine-là. Et cette fin de semaine, en prévision du sujet, je me suis demandé, Fortin, peut-être que tes attentes sont trop hautes. En ce sens, le mois de mai, on parle de sclérose en plaques, et la sclérose existe encore, là. Je veux dire, il faut pas penser que parce qu'il y a une semaine, tout va changer, mais quand même, j'ai envie de regarder... que ça a un lien ou pas avec la semaine québécoise des personnes handicapées. En 22 ans, si je vous demandais des bons coups sociaux, des avancées, bon, d'abord, les capés n'existaient pas il y a 22 ans.
Effectivement, on n'existait pas.
Mais c'est ça. Dites-moi des bons coups, des choses que vous voyez autour de vous qui, tranquillement, font qu'on se dit « Ah, ça avance », sans nécessairement se satisfaire de ça, mais juste voir le bien. Dominique, je t'entends respirer.
Ben, c'est parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a un proverbe qui dit que Rome ne s'est pas bâti en un jour. Je sais qu'il faut être patient, puis des fois, c'est un peu difficile, mais dans le cadre des formations que je donne avec Formation Altergo, ben, on dit toujours, après la formation, y a-t-il une chose que vous retenez qui va permettre d'améliorer ce que vous faites dans votre travail, des activités que vous donnez dans la ville ou les entreprises dans lesquelles les gens travaillent. Et puis, des choses que les gens disent « Ah, mais ça, j'y avais pas pensé. » Genre de faire de la communication pour que Luc, toi, tu sois capable de lire un site web accessible. d'avoir une personne qui peut se tasser quand le comptoir est trop élevé. Juste des petites choses comme ça, de dire qu'à la longue, ben, ça va s'améliorer. Puis pour moi, ça, donner des formations, c'est gratifiant. Mm-hmm. Puis c'est, je trouve ça cool.
Monique, en Outaouais, est-ce qu'il y a quelque chose qui... c'est un mauvais jeu de mots, là, mais qui te saute aux yeux comme étant une amélioration dans les dernières années?
Ben moi, je pense qu'au moins les années qu'on l'avait fait, ça a peut-être permis aux organismes de mieux se connaître, de travailler ensemble. Je pense que ça a au moins été ça. Ça a fait peut-être prendre conscience aussi au niveau de la municipalité, parce que quand même, ils s'étaient impliqués là-dedans, puis ils se sont rendus compte que, surtout, je parle de Gatineau, bon, les petites municipalités, c'est plus difficile à dire maintenant, mais quand même, il y en a qui font des choses, et de prendre conscience des problèmes d'accessibilité, et aussi la ville, une année, a organisé dans le cadre de cette semaine-là et de la semaine de municipalité qui tombait pratiquement en même temps, une journée aussi où les organismes étaient invités, des partenaires, alors à réfléchir justement sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les personnes handicapées au niveau projet, au niveau d'accessibilité. Fait que je pense que ça a peut-être amené un avancement, une co-satisfaction nouveau dans la région. Et je vais renchérir sur Dominique. Effectivement, les formations, je pense que ça, c'est un bon moyen aussi. Quand moi aussi, j'en donne des formations, puis de dire les gens sont devant toi, puis s'ils retiennent quelque chose, bon, au moins, ils voient premièrement que c'est des personnes handicapées qui sont capables de le faire. Ouais. Et je
et souvent,
pense
quand
que,
on se déplace pour être formé, c'est qu'on a le cœur à la bonne place, là.
Il y en a des fois qui viennent puis ils sont obligés,
oui, c'est le patron.
Mais après, des fois, ils disent après, ah, oh, mon Dieu, oui, des choses que je n'avais pas pensées. Alors, là, je pense que ça aussi, c'est bon. Et pour moi, je pense que l'intégration aussi, elle se fait à l'année. Bon, les obstacles, le transport, puis tout ça, on n'en parlera pas juste la semaine des personnes handicapées, on en parle à l'année parce que des problèmes d'accessibilité, ça survient à l'année. Et maintenant, on peut quand même être, comme on dit, il y a des médias. Fait que c'est pour ça qu'il y a moins de visibilité, probablement, quelqu'un qui en parlait tout à l'heure, au niveau de la semaine, parce que maintenant, il y a d'autres technologies qui font qu'on peut quand même avoir... donner l'information plus rapidement.
Anne-Laure m'écrase l'orteil parce qu'elle a une question, mais j'aimerais ça entendre d'abord du côté de Québec. Est-ce qu'il y a des choses qui te sautent aux yeux, Michel?
En fait, je vais revenir sur deux choses qui ont été dites. Médiatiquement parlant, comme on n'a pas une grande visibilité, et ce que Laure disait tantôt, la semaine sert à sensibiliser le grand public. Comment voulez-vous sensibiliser le grand public alors que la visibilité ne se fait que par Internet, que par Facebook, ou à peu près. Il y a peut-être d'autres affaires, là, mais dans des bases très clos, si je peux employer l'expression.
Ouais.
Contrairement à ce qu'ils veulent faire en réalité, c'est-à-dire ouvrir ça au grand public.
Oui, tout à fait.
Le commerçant, ou peu importe, qui ne sait pas que ça existe cette semaine-là, ou comment voulez-vous qu'ils soient sensibilisés et qu'ils soient qu'ils veulent aller s'informer à savoir qu'est-ce qui peut se passer dans la semaine, qu'est-ce qu'il peut faire pour rendre son commerce accessible si il ne sait pas que cette semaine-là existe.
Ouais, déjà il faudrait faire connaître. Vas-y, allez-y.
Et je pense que les médias de masse, que ce soit les journaux, la télévision, servent à ça. Regardez, moi, j'écoute beaucoup la radio commerciale et j'ai entendu une fois une pub depuis le 1er juin. On est rendu le 4.
Aïe, 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 ouais, ça fait dur. Effectivement, moi, j'aurais pensé ou espéré que la couverture médiatique s'était améliorée au fil des années.
Je dirais non. Non, moi non plus, je suis d'accord là-dessus.
Mais les médias aiment des histoires. Les médias aiment l'histoire, puis la SQPH, c'est pas, il y a pas d'histoire dans la SQPH. Ce sont des rassemblements, ce sont des, on veut des manifestations. C'est peut-être aux organismes créer des raisons pour que les médias s'y intéressent.
Oui, créer des rendez-vous et justement raconter des histoires. Tu as raison.
D'ailleurs, Luc, tu en as parlé un peu plus tôt en début de segment. J'ai animé une émission de 3 heures ce samedi et j'ai donné une entrevue à Radio-Canada vendredi et ils sont revenus le samedi pour couvrir l'événement. Donc, deux fois à Radio-Canada, pour ce qui est des autres médias, que ce soit à TVA ou les journaux ou peu importe, rien.
Et ce qui est intéressant à Québec, c'est que c'était vraiment une journée, là. C'était pas... Oui, il y avait le show de radio, mais le show de radio était là parce qu'il y avait eu un rendez-vous qui durait une journée où plein d'organismes avaient mis la main à la pâte.
Exactement. C'est... On était là pour faire connaître les différents organismes et commerces qui étaient sur place. Donc, je trouve que c'est une belle façon de sensibiliser plutôt que d'avoir une semaine. Puis, autre chose, si je peux me permettre, un autre intervenant disait tantôt, les problèmes d'accessibilité sont là à l'année. Mm-hmm. Est-ce qu'une semaine est suffisante? Ben. Je ne croirais pas.
Dominique, toi qui as déjà été dans des salles de nouvelles, justement, comment attirer l'attention des médias?
C'est de créer des histoires intéressantes, okay. Puis pas d'attendre que les médias viennent nous voir. C'est que nous, on aille les voir, puis à la longue, ils vont finir par répondre à l'appel, mais c'est pas d'attendre après eux puis d'être déçu parce qu'ils viennent pas. C'est moi, d'être à l'avant-poste.
Moi, je me souviens, tu m'as déjà dit, j'ai écrit à un journaliste sportif parce que je voulais qu'il parle de Brian McKeever qui venait de gagner une médaille d'or aux Paralympiques. Et la personne a dit, oh, c'est compliqué. Là. Tu as envoyé toutes les informations, il en a parlé. Donc, c'est ça, il faut finalement fournir.
Wow, bravo.
C'est ça. Ouais. Il faut pas attendre que le gars fasse du travail parce qu'il y en a tellement. Il va faire ce qu'il est habitué de faire.
Ouais. Michel Bédard, on vous écoute au capé de mercredi. Monique Beaudoin, lâchez pas. Dominique Tremblay, on vous écoute sur Ami Télé et continuez de former chez Altergo. Nous, on fait une petite pause et ensuite, une école qui a accueilli un chien. Ça va très bien du côté de Lévis.
Vous écoutez Accès libre.
Affronte l'orage, souliers rouges et chapeau jaune canarie. Comme un mirage, les jours se déplient. Sous ton passage, les langues se délient. Dépeignent leur cage, mais moi, je cherche où tu vis. Ouvre des bagages, on ne choisit pas où fleurit la rose sauvage. Tu changes l'image sous des parapluies, tes éclairages illuminent la vie de 10 000 visages. Décalage et moi devant les photographies de ta page. Je reste sous la pluie et les nuages.
Donc Anne-Laure Janson mange son muffin aux framboises.
Même
Guillaume
pas vrai.
Arsenault. Comment c'est pas vrai? Donc, tu m'as menti?
Non, mais
Guillaume
j'ai
Arsenault, lui, nous chantait les jours de pluie. Mmh. La question du jour, monsieur La Liberté.
Question de la semaine. Que pensez-vous de la semaine québécoise des personnes handicapées? Que peut-on faire pour qu'elle ait des retombées plus concrètes?
Je m'appelle Nicolas. On est à l'école La Martinière. J'ai 10 ans et je suis à côté de Tigre, le chien miracle d'école. Il m'aide avec dans mes travaux quand il est là. Il va souvent dans le bureau de Yann pour me le flatter. Quand je flatte, il est souvent les quatre pattes en l'air.
Extrait de reportage diffusé à Sam Regarde sur Ami Télé. Et la Eliane, dont il était brièvement question, est au bout du fil. Eliane Rioux, vous avez l'air tellement sympathique, Eliane. En tout cas, dans le reportage, soit qu'ils ont fait une très bonne job de montage ou que vous êtes foncièrement gentille.
Ben, j'espère que c'est naturel.
Vous êtes responsable du service de garde à l'école La Martinière de Lévis.
Exact.
Est-ce que vous aviez le chien avant ou vous avez abouti avec Tiga?
En fait, j'ai abouti avec Tiga. C'est un projet qui a été monté pour travailler auprès de la clientèle qui a des besoins particuliers. Donc, Tiga a été sociabilisé dans une autre famille, puis ensuite entraîné par la Fondation Mira, qui a été choisie pour venir travailler avec nous.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, vous aviez d'abord été famille d'accueil pour un chiot que vous avez emmené dans l'école. Hein? C'est comme ça que ce projet a commencé?
Exactement. On avait Charbon qui venait avec moi quotidiennement à l'école. Le but, c'était de le sociabiliser. Puis, on l'avait utilisé pour travailler avec quelques élèves. Puis, bon, on a vu les bienfaits de l'utilisation du chien, ce qui fait qu'on a monté le projet ensuite pour venir en aide de façon continue avec les élèves.
Et bien que ce soit une très, très belle histoire, en fait, la petite excuse qui nous permet de causer avec Eliane aujourd'hui, c'est que l'école La Martinière a reçu le prix Gilbert Leroux pour justement le développement du projet. Tout de suite, j'ai envie de vous demander, savez-vous s'il y a d'autres écoles qui vous ont imité depuis?
Oui, je sais qu'il y a eu d'autres écoles à qui la Fondation Mira a attribué des chiens. Je ne sais pas combien et où ils sont, mais oui, je sais qu'il y a eu peut-être, supposons, plus ou moins 4 écoles là, qui ont suivi.
Oui, parce que finalement, ça a été assez simple à mettre en place. Hein? Comment ça s'est fait?
De la façon de mettre en place le projet, nous, on a sondé quand même l'équipe école, l'équipe de la commission scolaire pour vraiment s'assurer de la mise en place. Les parents ont été consultés aussi. Puis c'est suite au sondage, puis dans le fond, à toute l'analyse de tout ça là, qu'on a pu mettre en place. Puis on a contacté la Fondation Mira qui, eux, étaient en fait favorables à mettre le projet de l'avant.
Et combien d'enfants, Tiga, est-il à l'école?
Oui, présentement, il est avec sept enfants qui suit de façon pratiquement quotidienne là, selon les élèves, selon les besoins, mais c'est 7 élèves qui suit cette année.
Comment ça fonctionne en ce sens? Est-ce que c'est un cours par élève, puis le chien va en géo avec un, puis en philo avec l'autre? Bon, je sais là, qu'ils font pas de philo, mais on s'entend.
Non, ça va finir par arriver. Non, en fait, c'est vraiment de façon... C'est établi avec l'enseignante ou avec la TES qui suit l'élève. Puis, c'est des périodes ou des moments qui sont favorables à l'élève selon ce qui est travaillé aussi avec l'enfant. Donc, le chien va être appelé à aller, par exemple, en dictée dans une classe avec un élève, un examen dans une autre classe ou pour des travaux de français dans une autre. Puis les élèves, ensuite, ils peuvent aussi avoir à venir prendre soin du chien à mon bureau. Il y en a qui vont le balader dans l'école selon, en fait, ce qu'ils ont à atteindre comme objectif. Ça va être sous forme récompense, si on veut, ou sous forme de support en classe.
La Martinière, c'est une grosse ou une petite école?
C'est une école moyenne. Là, dans le fond, on a 360 élèves à l'école.
Alors, comment faire en sorte que le chien s'intéresse à 7 enfants, alors que pour avoir eu 4 chiens guides dans ma vie, je sais quelle attirance ou quel attrait un chien peut représenter?
Oui, ben en fait, je sais pas, ça a l'air d'être né en lui parce que c'est sûr qu'il a été choisi pour son calme et son calme plat, qu'on peut dire. Mais les seules personnes à qui le chien fait affaire, dans le fond, les seuls qui peuvent toucher le chien, même, en tout cas, de façon très, très large, c'est les élèves avec qui, lui, il travaille.
Okay.
Ce qui fait qu'à l'école, il y a moi qui vais le flatter parce que ça reste que je suis son maître de base. Puis ensuite de ça, les seuls élèves qui vont le flatter, c'est sa clientèle et c'est depuis le début que c'est comme ça qu'on le fait respecter à la lettre, justement, parce qu'on voit ce que ça apporte aux enfants. Puis, il va se lever, si les enfants rentrent dans mon bureau, il va se lever seulement à ses élèves. Il se lève pas aux adultes, il se lève pas à personne. Il sait quand c'est sa clientèle, puis c'est sûr que les élèves le respectent très bien dans l'école, mais...
Moi, je sais que si j'enlevais le harnais, je pouvais donner la permission quand je trouvais la voix de la dame jolie ou le petit garçon craquant. Est-ce que les jeunes ont ce droit-là de dire à leur ami « oui, tu peux toucher à, disons, mon chien »
Non. Malheureusement, pour garder le wow aux élèves puis à la clientèle ciblée, c'est pas fait justement pour pas briser le petit lien là qui. Il y a un autre élève qui va pouvoir le flatter, puis c'est dans des moments où on travaille la socialisation, que c'est un élève qui est invité par un de ses amis, justement, lui il va le flatter, mais juste dans le bureau.
OK.
Et ouais. Quelles sont les limitations, les difficultés que rencontrent les sept amis de Tiga?
Les différents besoins, mais c'est certain qu'on a monté le projet à la base pour le TSA. On travaille beaucoup l'anxiété. Les élèves qui sont anxieux, surtout aux examens, puis tout ça, on va travailler aussi la dyspraxie verbale, puis les habiletés sociales.
D'accord.
Donc ça, c'est, en gros, on a le TDAH, on a travaillé aussi avec des enfants qui avaient des troubles de comportement et tout ça. Donc, on y va vraiment avec les besoins à l'école, puis on travaille autour de ça. Fait que les principaux, c'est vraiment ça.
Et quel est le rôle de Tiga?
C'est vraiment d'apaiser, d'être un confident, de calmer les élèves.
C'est vrai parce que dans le reportage, il y a un élève qui disait « Moi, je dis mes secrets à Tiga ».
Oui, c'est dans le reportage d'Ami Télé. Ouais. Pardon?
C'est dans le reportage d'Ami Télé.
Oui.
Ça fait l'objet, d'ailleurs, et aussi notre média.
Éliane Rioux, qui est responsable du service de garde à l'école La Martinière, qui s'est mérité justement un prix pour ce projet, mais surtout, elle est la responsable de Tiga. J'ai envie de... Parce qu'on pourrait penser que le chien est une distraction pour le jeune qui fait son examen. Plutôt que de le calmer, c'est facile de penser qu'il est excité parce qu'il est heureux de voir son chien à côté de lui. Comment on a su et comment ça prend combien de temps pour que, finalement, Tiga joue son rôle de calmant plutôt que d'excitant?
En fait, ça a été instantané que le chien est tellement calme qu'il a compris c'était quoi sa place. C'est certain que moi, dans la classe, quand j'arrive, je mets sa petite couverture à côté du bureau de l'élève, mais...
Oui.
Il va s'étirer puis il va se recoucher toujours sur sa couverture. Fait qu'il n'y a rien d'excitant pour
l'élève. OK, vous n'avez pas un plat.
Ben, adou. Moi, je ne dis pas qu'il est plat, mais il est vraiment fait pour, calmer.
Je comprends.
Et en plus, il ne fait peur à personne, là, parce qu'il y a peut-être des enfants ou des adultes qui avaient peur des chiens.
Oui, il y en a qui ont des craintes, effectivement, mais ça s'est atténué, du moins avec Tiga, parce qu'il est tellement calme, il se promène toujours nonchalant. Ce qui fait que ça crée aucune crainte. Au contraire, là, j'en avais un élève là, qui changeait quasiment le corridor quand il voyait un chien. Puis avec le temps, là, mon doux, aujourd'hui, il va passer à côté, puis c'est correct. Là.
Belle idée, en tout cas. On savait qu'il y avait des chiens qui pouvaient comme ça faire des belles réussites dans les familles avec des enfants avec un TSA, mais là, de le voir dans une école, tant mieux. Éliane, merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Merci
bravo.
Alors, est-ce qu'on a de la lecture cette semaine?
Oui.
Je sais que vous aimez ça, vous nous faire entendre la lecture.
On a un petit peu de lecture, effectivement. Je vous en parle tout de suite. Donc, c'est aujourd'hui et donc dans la semaine, on vous fait écouter l'introduction de « Je veux croire au soleil » de Jacques Semelin, publié aux auditions Les Arènes en 2016.
Oh, que c'est bon, j'ai lu ça il y a deux mois. Oui, c'est très,
c'est
très
super bon.
Alors, c'est très bon.
La quatrième de couverture. J'ai écouté.
Au complet?
La quatrième de couverture.
Ah oui.
La réalité quotidienne d'un non-voyant est un pays étranger. Quel est son rapport au monde, à la ville et à la nature, à la nécessité de se déplacer, d'utiliser des écrans tactiles, de traverser les rues, de reconnaître les gens? Invité à donner des cours au Québec, l'historien Jacques Semelin nous propose un récit de voyage d'un genre nouveau. À la fois le sien, dans une ville dont il découvre tout, et le nôtre, dans la tête et le corps d'un non-voyant. Son écriture émouvante et souvent drôle entraîne le lecteur dans ce que Borges appelait une expérience sensuelle et esthétique. Chaque sens, oui, odorat, toucher, est sollicité, de même que l'imaginaire, pour inventer le réel. Quand on ne voit plus le soleil, il s'agit de croire qu'il existe et de s'en remettre à la confiance vitale. Un récit unique et universel. Jacques Semelin est directeur de recherche au CNRS et enseigne depuis 1999 à Sciences Po, où il a créé un cours pionnier sur les génocides et violences extrêmes. Il est notamment l'auteur de « Persécution et entraide dans la France occupée »,« Les arènes, Seuil, 2013 », un ouvrage monumental, et de « J'arrive où je suis étranger », Seuil, 2007, où il décrivait sa lente métamorphose vers la cécité.
J'arrive où je suis étranger, effectivement, qui est beaucoup plus technique, qui est beaucoup plus cérébral, même si c'était, comme on le lit ici, sa lente descente vers la cécité. Très belle lecture de Gilles Dupuis en passant. Hein. Mais je veux croire au soleil, en fait, très brièvement. Le gars est venu à Montréal pour enseigner à l'Université de Montréal. Il est venu seul et il nous explique comment il a apprivoisé la ville seul avec sa canne blanche. C'est vraiment, vraiment intéressant. Bien écrit, bien lu, un extrait du chapitre 1.
Monsieur, où allez-vous? C'est un matin calme et doux, mais sans rayon de soleil, je crois. Un taxi m'emporte vers Roissy. Le chauffeur est silencieux, et moi aussi. Il est encore tôt, et je ne suis pas très bien réveillé. J'entr'ouvre la vitre pour sentir l'air sur mon visage. Le vent s'introduit dans la voiture par petites bouffées régulières, chaque fois accompagnées d'un léger bruit étouffé que j'adore. Cela me rappelle quelque chose de mon enfance, mais quoi? Je fouille dans ma mémoire. Je me revois tout gamin dans le train qui me conduisait de Paris à Nantes avec mes parents. J'aimais faire ce même geste, entr'ouvrir la fenêtre du compartiment pour sentir le vent arriver par intermittence. Puff, puff, puff. Comment se produisent ces petits bruits douillets? Et que viennent-ils donc remuer en nous? C'est un mystère. La circulation est fluide et nous sommes déjà sur l'autoroute du Nord. Le chauffeur a remarqué ma condition, mais il ne m'interroge pas. Il se demande sans doute comment je vais régler sa course. Si je paye par carte, pourrais-je lire le montant sur le cadran? Et comment parviendrai-je à faire mon code? Si je le règle en espèces, comment vais-je reconnaître les billets? J'ai déjà prévu le coup. Je ne prendrai pas le risque de faire une carte. J'ai préparé à peu près la somme qu'il va me demander et je saurai reconnaître ce qu'il me rendra en échange. En Europe, heureux choix pour la monnaie unique, les billets de valeurs différentes ont des formats différents. Avec un peu de pratique, on apprend facilement à les reconnaître au toucher. Aux États-Unis, les dollars sont tous de même taille et ne se différencient que par leur couleur. Qu'on vous donne un billet d'un dollar au lieu de 50 ou de 100, et vous n'y verrez que du feu. Nous arrivons à l'aéroport et le chauffeur me propose de me conduire dans le hall. Sympa. La porte sitôt franchie, je me sens enveloppé par le murmure des annonces et le brouhaha des voix. Je ne suis pas à l'aise dans les aéroports où il m'est impossible de m'orienter seul. Dès que j'y pénètre, je dois me faire identifier, repérer, désigner. C'est le seul moyen de susciter l'assistance dont j'aurai besoin. Alors, schlack, je dégaine mon arme blanche, le bâton qu'il me faut agiter devant moi, à gauche, à droite, pour me frayer un chemin. Il mesure 1,30 m et en intimide généralement plus d'un. Tac, 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 je commence à frapper le sol de ma canne.
Et voilà donc, c'était une lecture de Gilles Dupuis, « Je veux croire au soleil » de Jacques Semelin, que Clotilde Say a reçu dans des livres plein les oreilles le 14 décembre 2017 et dont elle m'a vanté l'humanité et les écrits à n'en plus finir.
C'est ça, parce que Clotilde le dit, là, c'est vrai.
C'est vrai, moi j'y crois. Ouais, non, mais c'est sûr même, il n'y a pas à en douter. Puis Luc, tu l'as dit aussi. Alors, donc, si vous voulez écouter ces beaux livres enregistrés par Vues et Voix, si vous présentez une déficience visuelle ou une limitation qui vous empêche de lire un livre imprimé, ben, inscrivez-vous au service québécois du livre adapté par l'entremise de BANQ.
Because you know I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass.
Yeah, it's pretty clear. I ain't no size to, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing. Junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop. You know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she told me, don't worry about your size. She said, boys, I got because you know I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies that. Nah, I'm just playing. I know you think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Hey, my mama, she told me, don't worry about the size. She said, boys, like a little more booty to hold at night. And I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, because you know I'm...
Pas manouche, de souche, c'est louche d'avoir à la bouche Django. Pas manouche, les nanas, c'est louche d'avoir dans les doigts Django. Pas manouche, on s'entend, c'est louche d'avoir dans le sang Django. Pas manouche, alors c'est louche d'avoir dans le corps Django. Dingo de Django, dingo de Django, dingo de Django, dingo de Django, dingo de Django. pas manouche, faut l'admettre, c'est louche d'avoir dans la tête Django. Pas manouche, au berceau, c'est louche d'avoir dans la peau Django. Pas manouche, pas d'erreur, c'est louche d'avoir dans le cœur Django. Pas manouche, on vous le dit, c'est louche d'avoir dans notre vie Django. Dingo de Django, dingo de Django, dingo de Django, dingo de Django.
C'est drôle d'entendre Christine Tassin dire « Aster ». Christine Tassin, les imposteurs, avec Dingo de Django. On a eu des commentaires, des réponses à notre question aujourd'hui, Madame Janson.
Oui, tout à fait, Monsieur Fortin. Que pensez-vous de la semaine québécoise des personnes handicapées? Que peut-on faire pour qu'elle ait des retombées plus concrètes? Alors, Dominique Racine nous écrit « Bonne sensibilisation aux problèmes majeurs d'accessibilité dans tous les secteurs d'activité de la vie quotidienne. » Marc-André, puis-je en rire? Point d'interrogation, pardon. Patrick Fougérolas...
Ouais, ça fera ça, ça déride Marc-André.
Patrick Fougérolas écrit « Une semaine pour 51 semaines sans accessibilité. » Et Monsieur Villepa. Ou comment radoter les mêmes choses depuis 40 ans sans que rien change? Ça fait 40 ans qu'on a les mêmes avancées. Rare porte automatique, transport adapté, trois petits points, et c'est toujours aussi broche à foin. Faudrait arrêter de parler des progrès que ça représente, ça fait longtemps qu'on stagne. Pendant ce temps, le STAC, Service du transport adapté de Québec, se donne le droit de refuser ta valise. Alors, c'est ça pour
donc,
aujourd'hui?
Donc, Villepa et Patrick semblent...
Bah, Patrick,
penser...
il en voudrait plus,
ouais,
à
ouais,
juste
ouais.
titre. Et Villepa, il semble pas, non, pas très content des impacts ou des retombées de la semaine québécoise des personnes handicapées. Je le rappelle, la semaine dernière, c'était la semaine nationale de l'accessibilité au Canada. Il y avait 24 activités qui étaient enregistrées, dont une à Montréal, le 1er juin, donc le rassemblement organisé par le mouvement FASE, en lien avec sa campagne « Nous sommes et nous voulons ». Durant cette période, le Conseil des arts du Canada a remis à France Geoffroy, qui est pionnière dans la danse intégrée au Québec et fondatrice de Corpuscule Danse, le prix Michael J. Fox avec 25 000 $ de bourse.
Wow.
Super, bravo.
Hey, ça, c'est du Windex pour ces miroirs, parce qu'on le sait, dans les studios de danse, c'est toujours plein de miroirs.
Et la semaine prochaine,
bravo,
c'est une
France.
Autre semaine. Du 12 au 16 juin, se tient à l'Université du Québec à Montréal, l'école d'été, droit, citoyenneté et handicap, stratégie d'émancipation. C'est ouvert à tous, mais il faut s'inscrire. Alors,
en parlant
voilà.
de la semaine prochaine, nous, on parlera de la modernisation des élections fédérales avec ce projet de loi C-76. D'ailleurs, elle qui ne sera pas disponible, on lui parle, nous, tout de suite après ce direct, entrevue que l'on vous présentera la semaine prochaine, c'est-à-dire avec Karina Gould, qui est ministre des institutions démocratiques au sein du gouvernement fédéral. Merci
c'est
à Madame Janson.
Merci Luc.
Merci Jean-Sébastien.
Merci Christiane. Merci Benoît. À la semaine prochaine.